Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
Vous écoutez
Martineau.
Cube Radio.
Comment se porte la vie nocturne à Montréal? Vous savez, c'est une promesse électorale de Projet Montréal, le parti de Valérie Plante, d'organiser, de créer une politique de la vie nocturne, parce que la vie nocturne, ça fait partie, ça qui fait bouger une ville, c'est ça qui donne une âme à une ville. Alors, il y a eu un sommet de 2 jours organisé par la Ville de Montréal. Nous allons parler avec Mathieu Grondin, directeur général de Montréal 24 heures sur 24. Bonjour Mathieu Grondin.
Bonjour, M. Martineau.
Il y a eu lieu, hein, ce sommet-là.
Pardon?
Le sommet, est-ce qu'il y a eu lieu ou il va avoir lieu?
Non, il y a eu lieu mardi et mercredi cette semaine. On a terminé, on est à l'heure des bilans. Donc voilà, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui pour en parler. On s'est parlé déjà il y a quelques mois là,
ben oui.
Là-dessus.
Ben oui, alors là, c'est quoi? Là? C'était quoi cette affaire-là de la politique de la vie nocturne? Il y a des gens qui disent, ben, on n'a pas besoin d'un politicien ou d'une politicienne pour organiser la vie nocturne. Elle va s'organiser d'elle-même. C'est quoi ça?
Ben, une politique, c'est pas un politicien normal, nécessairement, mais une politique de la vie nocturne, c'est juste un outil, un plan d'action, une stratégie pour aider à mieux gouverner la vie nocturne. On sait qu'à Montréal, là, on sort d'une pandémie, donc il y a une nécessité de relancer la vie nocturne. Ça fait partie du plan de relance économique aussi de la Ville de Montréal. Là, la vie nocturne, c'est au cœur de l'ADN de notre ville depuis 100 ans, là, de la prohibition jusqu'aux clubs jazz, les clubs disco, les after des années 90. Donc, puis avant la pandémie, bon, on avait aussi des enjeux propres à la vie nocturne. Là. Il y avait des enjeux de dynamisme, à mon avis. Il fallait un peu réussir à redynamiser la vie nocturne de Montréal. Puis il y avait aussi des enjeux de cohabitation, là, qu'on en entend souvent, là, c'est tout le temps la même chose dont on parle quand on parle de la vie nocturne, souvent le bruit, bon, c'est ces choses-là.
Ben
donc,
oui.
Nous, donc on est là pour amener des nouvelles idées, des nouvelles façons de gérer la vie nocturne à Montréal. C'est pour ça qu'on a fait, on organise ce sommet-là.
Ben oui, clairement, c'est les gens de Saint-Lambert qui chialent parce qu'il y a trop de bruit. Au parc Jean-Drapeau, quand il y a des soirées de musique, quand il y a Oceaga, quand il y a la F1, il y a trop de bruit, les gens de Saint-Lambert.
Ben, il n'y a pas juste les gens de Saint-Lambert, hein. On a aussi des problématiques qui sont propres à Montréal. Tu sais, on sait qu'on veut un centre-ville habitable. Il y a eu beaucoup de tours à condos qui sont construites, là, entre autres, autour, là, de certains hauts lieux de la vie nocturne, comme je pense à la place des festivals, là. Donc, tu sais, il faut penser à ça, voir comment peut-être on peut se doter aussi d'un plan d'urbanisme qui prend en compte, justement, la nuit. Comme concept, comme l'aménagement temporel dans le temps, qu'est-ce qu'on fait le soir, puis comment est-ce qu'on peut justement s'assurer qu'il y a une meilleure cohabitation entre tous ces usages-là.
Oui, mais tu sais, mon beau-père, justement, habite une tour à condo juste à côté du quartier des spectacles. Il savait, là, quand il est allé là, il savait qu'il allait avoir du bruit, puis tout ça. Écoute, là, quand t'ajoutes la maison à côté de la maison d'Éric Lapointe, tu le sais que la musique va jouer fort, tard, là. Tu le sais, sinon tu vas pas là, tu sais.
Mais la bonne nouvelle, c'est que le quartier des spectacles a sondé les résidents autour, puis les trucs qui dérangent le plus au niveau du bruit, c'est pas le bruit des festivals et le bruit des bars et des festivaliers. Tout, c'est beaucoup plus là les équipements, la ventilation, les camions, le transport. C'est ça qui dérange le plus. Donc, tu sais, je pense qu'il y a un problème aussi de perception des fois. Là, on a tendance là à grossir un peu le problème, à mettre la loupe dessus, à regarder juste un truc. C'est beaucoup ce qui s'est fait dans les dernières années. Là, on se rappelle les petites affichettes qu'on voit partout, là, la nuit, le bruit nuit et tout. Tu sais, je pense qu'il faut essayer de pouvoir faire la part des choses, puis de voir un peu là, vraiment qu'est-ce qu'il y en a concrètement. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire à travers le sommet, à travers différents conférences. Là, on avait des gens d'ici, mais on avait aussi des gens de partout à travers le monde, voir dans d'autres villes, c'est quoi les meilleures pratiques, comment est-ce qu'ils font eux autres pour gérer le problème de bruit. Tu sais, il y a pas, bon, on s'y prend-tu de la meilleure manière? Y a-tu d'autres manières de faire? Fait que ça, c'était très intéressant. On peut voir ce qui se fait ailleurs puis s'en inspirer pour créer notre propre modèle.
Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant, toi, au cours de ces 2 journées-là, Mathieu?
Ah, ben beaucoup de choses, c'est moi qui l'ai programmé. Mais mais entre autres, je pense, tu sais, quand on regarde là, en ce moment, on a une problématique un peu dans les parcs. Hein? Avec l'arrêt de la vie nocturne partout, là, les jeunes se sont beaucoup ramassés dans les parcs. Ils font la fête dans les parcs, des fois tard. C'est pas des endroits qui sont appropriés nécessairement, ben parfaitement appropriés pour ça. Puis tu sais, on a vu, il y a eu beaucoup de, il y a eu la répression policière pour essayer d'endiguer le problème l'année passée. On a eu aussi au début de l'année là, on a même sorti un hélicoptère pour essayer de les décourager. Puis ça donne pas grand-chose. Donc, nous, ce qu'on s'est inspiré, là, il y a eu la ville de Sydney qui sont venus nous parler. Il y a eu des gens aussi d'Amsterdam qui nous ont expliqué qu'eux autres, ben, ce qu'ils ont mis en place, c'est des espaces de médiation. Donc, des gens qui sont, des gens comme vous et moi, mais qui ont à cœur la vie nocturne, qui se promènent et qui vivent, qui sont comme une espèce de pare-feu avant de tomber dans l'approche policière, qui disent aux gens, ben, ramassez-vous, faites un petit peu moins de bruit, faites attention, distanciez-vous, mettez vos masques, blablabla. Moi, je trouve que c'est une excellente façon, là, de créer un lien avec les résidents, puis de créer un lien aussi avec la jeunesse, parce que veut pas, ben, eux autres aussi, là, ils l'ont mangé raide, là, la pandémie, là, depuis un an et demi, là, avoir 21 ans, pas être capable de sortir, pas capable de voir tes amis, c'est pas facile. Moi, je voudrais pas être à leur place, là. Mais moi, je sais qu'à ce temps. À cette époque-là, je bougeais beaucoup, j'avais une grosse vie sociale, je me couchais très tard.
Moins aujourd'hui?
Ben non, encore aujourd'hui, mais bon.
Écoute, ça va ressembler à quoi la vie nocturne à Montréal cet été? Est-ce que c'est le retour à la normale totale? Ça va ressembler à quoi?
Non, parce que la zone verte, là, les bars ferment toujours, ben là, sont rendus à 2 heures. Là. On a commencé le sommet, c'était à minuit. Là. Merci aux Canadiens de Montréal. On espère qu'ils vont se rendre loin comme ça. Si les Canadiens de Montréal avaient une game à 3 heures du matin, peut-être qu'on pourrait ralentir la vie nocturne plus rapidement. Mais on peut pas danser non plus. Hein. Donc, la danse est interdite. Donc, tout ce qu'on aimerait avoir, c'est un espèce de plan un peu plus clair. On aimerait ça être inclus, en fait, dans le plan de déconfinement. On sait qu'il y a le palier bleu ciel, là, que le docteur Arruda a parlé, qui viendrait après la zone verte. Moi, ce que je prône, c'est un palier bleu nuit. Pour que la nuit soit intégrée dans le palier bleu et qu'on puisse avoir vraiment un horizon de quand est-ce qu'on va pouvoir justement retourner danser, chanter au karaoké, pour ceux qui aiment ça. Puis voilà, parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir relancer Montréal. Il n'y aura pas de relance économique sans une relance de sa vie nocturne. C'est trop au cœur de notre identité. Donc, tu sais, est-ce qu'il faut attendre encore jusqu'à l'automne? Je sais que c'est un peu la position de la santé publique, mais en même temps, les choses évoluent tellement rapidement. Comme je vous disais au début du sommet, les bars fermaient à minuit, là, ils ferment à 2 heures, puis on est passé de 2500 à 3500 personnes. Donc, on va voir comment la vaccination se poursuit. Si ça va bien, peut-être qu'on va pouvoir devancer les choses, je l'espère, mais chose certaine, il faut être prêt pour l'été prochain, la prochaine saison touristique, quand les touristes vont pouvoir revenir à Montréal. On sait que la grosse saison, c'est l'été ici. Il faut qu'on ait un plan d'action clair pour que Montréal puisse se démarquer sur la scène internationale, parce qu'il va y avoir beaucoup de compétition entre les villes pour attirer les touristes nocturnes. Puis je pense que Montréal a beaucoup d'outils. Déjà, on a plein d'artistes, on a déjà une vie nocturne qui était très trépidante. Puis là, ben, il s'agit juste, là, il manque juste une truc de plus pour qu'on puisse se démarquer à l'international puis pouvoir s'assurer là, d'être compétitif là, l'été prochain.
Écoute, je sens un peu d'ironie dans ta voix quand tu parles des Canadiens, mais c'est vrai que ça a dû être perçu dans le milieu du nightlife, dans le milieu des bars et tout ça. Comment ça se fait qu'on fait une exception quand c'est le Canadien de Montréal?
Ben, écoute, s'il faut que ça passe par là, hein. Moi, je vais être dans un bar ce soir pour regarder la partie comme tout le monde. C'est sûr que, tu sais, on se demande un petit peu, là. Comme je vous dis, tu sais, nous, on a l'impression. En fait, pourquoi on a organisé, entre autres, là, pourquoi ce sommet-là est important? C'était un peu une façon de lever la main pour les gens de la vie nocturne, puis de dire, hey, oubliez-nous pas. On est important, on existe, nous autres aussi, puisque, tu sais, moi, quand on me dit la zone est verte, là, je suis comme, ben, verte pour tout le monde, mais pas verte pour les noctambules, là. On n'est pas de retour à la normalité, tu sais. Puis bon, est-ce qu'on veut vraiment revenir tout à fait à ce que c'était avant? Je pense que c'est une occasion, on a eu une pause d'un an et demi, là, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait comme nouvelle proposition dans le futur. Puis moi, je pense qu'on devrait repartir sur des bases qui veulent construire une économie 24 heures. Là, la chance qu'on a en ce moment, c'est qu'on a une excellente écoute des paliers de gouvernement parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de la vie nocturne dans l'écosystème économique d'une métropole, d'une grande ville comme Montréal. Puis là, ben, ils voient bien là, que, tu sais, Ils veulent que ça reparte, il faut qu'ils nous incluent dans leur plan. Donc, je pense qu'il y a, un vent de changement qui souffle sur la vie nocturne en ce moment à Montréal. Il y a un changement de ton, il y a une écoute qui n'était pas là avant, puis c'est prometteur pour le futur. Maintenant, il reste à mettre en place des actions concrètes. Là, il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'écoute. On s'est assis, on a consulté tout le monde. Tout le monde a pointé les mêmes problèmes. Tout le monde pas mal a pointé les mêmes solutions. Il y a un bon consensus, je pense, autour de la table, dans toutes les parties prenantes de la vie nocturne. Mais ça va nous prendre des élus qui développent une vision de la nuit, une vision du futur des nuits de Montréal.
Non, puis parler de la nuit en termes positifs aussi, là, pas seulement en termes négatifs, là, pas tout le temps, là, mon Dieu, il va y avoir des voyous, puis ça va se tirer dans la rue, puis il y a des problèmes, puis la police, tu sais. À un moment donné, quand on parle de la vie nocturne, c'est tout le temps sur le côté négatif. C'est positif, c'est ça qui fait bouger une ville, c'est ça qui attire des touristes. Écoute, concernant le bruit, il y a quelques années, je suis allé dans un rave. Oui, Richard, mon oncle Richard est allé dans un rave à Tel Aviv. puis on avait tous des écouteurs, OK? Il y avait un DJ, tout ça, mais la musique était dans tes oreilles, donc c'était hyper calme. J'imagine, il y en a eu d'organiser ici aussi. C'est-tu l'avenir, ça?
Les silent discos.
Ben oui, des silent.
Oui, j'ai vu ça dans des parcs ici, là. Ben non, c'est pas l'avenir. c'est pas la même affaire, là. Je peux rester chez nous pis danser avec ma blonde dans le salon avec nos écouteurs si on veut. Mais non, je pense que tu sais, il faut se développer des manières, justement, des outils pour gérer la cohabitation. Ça en fait partie. Moi, je pense que tu sais aussi, à Montréal, là, il y a plein de secteurs industriels là, qui doivent être revalorisés, qui doivent être changés. En Europe, quand tu vas dans une grande ville, les grosses discothèques, les gros clubs le fun à Berlin, à Amsterdam. C'est dans des anciennes usines. Puis c'est une excellente façon de préserver notre patrimoine industriel. Tu sais, tu transformes ces usines-là, tu en fais des salles de spectacle, c'est malade. Tu rentres là, il y a des grandes roues, de la mécanique des années 1900, ça donne un décor complètement fou. Au lieu de tout scraper ce qu'il y a en dedans, garder juste l'extérieur, puis mettre des condos avec des portes d'armoire en mélamine. Tu sais, à un moment donné, c'est fun, là, le résidentiel, mais on peut pas faire de la monoculture.
Tout à fait. Regarde ce qu'ils ont fait dans le Meatpacking à New York, là. Avant, le Meatpacking, c'était un endroit épouvantable, t'allais pas là, puis bon, c'était très industriel, puis maintenant, c'est des bars, puis des boîtes de nuit, puis tout ça, là. Il y a une façon de reniper ça, là, effectivement, qu'on fait pas. C'est ça qui nous manque un peu, le petit oomph qui manque à Montréal pour redevenir le centre du nightlife. Là.
Puis, tu sais, je dis pas qu'il faut faire non plus comme la 5e avenue à Playa del Carmen, là, ou à Cancun, là, où est-ce que c'est des gros trucs, des discothèques qui crachent le son dans la rue. Je dis pas qu'on peut aller là. Ça aussi, c'est de la monoculture. Moi, je suis pas un fan des secteurs de divertissement dédiés, tu sais, mais je pense que d'avoir un secteur 24 heures sur 24 avec, où ce que les gens, justement, qui habitent là, ben, c'est des gens qui veulent aller habiter là pour ça. Tu sais, on n'a pas de plainte de bruit dans le quartier latin entre Sainte-Catherine puis Sherbrooke. Pourquoi? C'est tous des étudiants du Vieux-Montréal qui habitent là. Fait que les autres, ils aiment ça, ils vont là pour ça. Après ça, tu sais, on a eu plein de bruit sur le plateau dans les 10-15 dernières années. Mais le plateau, il s'est beaucoup transformé dans les 20 dernières années. Avant, c'était un quartier ouvrier, un quartier d'artistes. Maintenant, ben, c'est un petit peu plus un quartier professionnel, disons, puis il y a beaucoup plus de propriétaires qu'il y avait avant. Donc, les propriétaires, ben, ils veulent protéger leur investissement. Je les comprends. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve un spot, là. Faut qu'on se trouve un spot. Puis là, tu sais, il y a des défis qui s'en viennent pour le centre-ville de Montréal, justement. Si on veut le rendre un centre-ville habitable, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec la vie nocturne? Faut qu'on trouve une façon, là, d'aller.
Mais habiter des vieilles usines, effectivement. Puis, tu sais, si tu veux pas avoir de bruit, là, va à Ville-Mont-Royal. Là-bas, si tu fais du bruit après 7 heures, la SWAT débarque. OK?
Ouais, c'est pas accessible à tout le monde.
Mais non, c'est une gag. OK. Ben, Mathieu Grondin, on espère que cette maudite pandémie-là va mourir de sa belle mort rapidement, puis qu'on puisse redevenir une ville trépidante qui bouge. Merci beaucoup, Mathieu Grondin.
J'espère aussi. Merci beaucoup, M.
Salut. Bonjour. Bonne journée.